Bonjour à tous et bienvenue sur Business Positif. Si vous avez l'ambition de mettre en place les meilleurs leviers marketing à la fois durables, efficaces et alignés avec vos valeurs, vous êtes au bon endroit. Je suis Mélodie Schmoss, entrepreneur de l'impact, et chaque semaine, je pars à la rencontre de ceux qui font du marketing un atout incontournable de leur réussite. Le but ? Vous donner un maximum de clés pour atteindre vos objectifs de business et d'impact. Si cet épisode vous plaît, partagez-le ou laissez-lui 5 étoiles sur Apple Podcasts. Hello à tous, je suis Mélodie Schmoss, fondatrice de Cause, une agence digitale au service de l'impact. J'ai créé le podcast Business Positif suite à plein d'échanges avec des entrepreneurs sociaux et des chefs d'entreprise en quête de sens, et je me suis passionnée pour la question de l'impact positif comme opportunité ou contrainte business. Avec Business Positif, je pars à la rencontre de ces entreprises qui réussissent à allier rentabilité et impact et à se développer de manière pérenne. On parle de leurs histoires, de leurs stratégies, de RSE ou encore des outils digitaux qu'elles utilisent. Et vous y trouvez des astuces à mettre en place concrètement dans votre structure, mais aussi de l'inspiration et de la créativité, parce que oui, ce sont souvent des personnes qui inventent de nouveaux modèles. J'essaie de poster 2 fois par mois les mercredis. Le plus simple est de vous abonner sur votre plateforme préférée pour être alerté dès qu'un nouvel épisode sort. Et n'hésitez pas au passage à mettre 5 étoiles si le podcast vous a plu, ça m'aide beaucoup. Aujourd'hui, je cause avec Hortense Aran, fondatrice de l'entreprise Tech Fleur d'ici. Hortense est une femme engagée et inspirante qui a su mettre en commun business et horticulture en embrassant une ambition forte, celle de relancer la filière horticole en France. Dans cet épisode, on parle autant d'engagement, de relocalisation et d'empreinte carbone que de tech, d'innovation, de disruption et de rentabilité. Trêve de causerie, je vous laisse découvrir cet échange et les conseils précieux qu'Hortense nous partage. Bonjour Hortense.
Bonjour Mélodie.
Merci beaucoup de me recevoir dans ces super locaux. On disait à l'instant qu'au final, il n'y a pas beaucoup de photos qui tournent de cet endroit où il y a plein d'objets chinés, d'une déco qui est hyper, hyper jolie, hyper unique. Très en lien, j'ai l'impression, avec quand même le positionnement de Fleur d'ici. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus du coup là-dessus ?
Nous, chez Fleur d'ici, on essaye d'être responsable à tout point de vue, donc d'avoir dans cette idée de calcul des coûts complets et de prise en compte de tout l'impact de la vie d'un produit. Nous, on essaye de ne pas produire du déchet en plus de ce qui existe déjà, de ne pas rajouter du carbone à ce qui existe déjà, etc. C'est quelque chose qui nous hante et qui nous habite au quotidien et surtout. Et donc, effectivement, on s'est dit que plutôt que d'acheter des meubles neufs qui veulent dire que, bien sûr, il y a eu de la ressource utilisée, etc., nous, on a préféré s'atteler à, et on en a fait en plus un projet d'entreprise de team building, on a fait un projet où on a meublé les locaux avec des meubles chinés, donc on a été en vertu de ce que de notre attachement à l'upcycling, on a été chez Emmaüs, on a été sur Le Bon Coin, on a chiné nos meubles pour avoir une déco effectivement en accord avec nos valeurs.
Ouais, c'est génial. Enfin, quand on arrive vraiment, quand on entre dans un univers effleuri et vintage, mais je veux dire pas vintage, un peu déco branché habituel. Il y a vraiment une atmosphère. En plus, il y a l'odeur des fleurs. Enfin, je le raconte, on est en podcast, mais c'est vrai qu'il y a l'odeur de la fleur aussi quand on entre. C'est génial, quoi.
Moi, je dis, c'est un peu l'appartement de Madame Stanlova, quoi. C'est quand on était petit, l'appartement, on allait prendre des cours de danse à la barre avec cette espèce de truc un peu effectivement universel et intemporel, en fait. L'idée, c'était aussi de produire quelque chose qui soit intemporel, à l'inverse de ce qu'on voit beaucoup dans l'écosystème start-up tech, alors que nous, on est une start-up tech, mais on préfère... Enfin, on n'est pas que ça. L'idée, c'est aussi d'incarner autre chose, et notamment à travers la déco.
Et c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que vous vous définissez comme une start-up tech dans un monde de fleurs, j'allais dire, qui pourrait paraître... un peu à l'opposé de ça. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur le pourquoi de ce projet Toi, tu t'appelles en plus Hortense, c'est quand même assez marrant. Est-ce que c'est quelque chose qui t'animait depuis le début, qui te tenait à cœur de faire un business dans les fleurs? Parce que tu viens pas de là, tu as fait un parcours plutôt de grand reporter, j'ai vu, pour la presse française, pour la BBC, tu as été consultante en com. C'est quoi un peu l'histoire d'Hortense qui se lance dans un business de fleurs et d'où ça part, en fait?
Ça part effectivement de mon prénom. Ouais. En fait, je m'appelle Hortense. Hortense, ça vient du mot latin hortus, qui est la base de horticulteur, hortensia aussi. Hortus en latin, ça veut dire jardin. Et sinon, je devais m'appeler Iris. Donc, à partir de cette base-là, on peut imaginer un petit peu mon environnement familial.
Le chemin tracé.
Voilà. Donc, en fait, je viens d'une famille très attachée à la nature et à la protection de la nature et à cette idée de la nature nous donne beaucoup, il faut lui rendre et la respecter. Et c'est un bon guide. Voilà. Donc. C'est quelque chose qui, effectivement, moi, j'ai pas fait des études en botanique, mais j'ai une très bonne compétence sur ce sujet, meilleure que la plupart des fleuristes. Je connais aussi les techniques de culture, etc. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui m'a été, dont j'ai hérité, en fait, par ma famille. C'est un héritage culturel.
Que tu avais déjà, du coup, que tu pouvais déjà entretenir, même quand tu avais d'autres activités professionnelles. Au final, en parallèle, tu as toujours eu... on va dire l'horticulture dans ton environnement, quoi.
En fait, depuis que je sais marcher le week-end, okay. Je vais vraiment en forêt. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas seulement la culture du jardin, cette culture un peu bourgeoise où on fait ses plates-bandes, etc. C'est pas tellement ça. C'est plutôt une culture un peu sauvage, de la nature sauvage et de comment est-ce que on va récolter des fleurs sauvages, comment on va récolter aussi des baies ou des... Enfin voilà, des choses qu'on peut manger. Moi, je suis la bonne personne pour se perdre en forêt. Hein. Si on veut faire un survival game, je suis la bonne personne pour faire ça, parce que je connais vraiment bien tout cet environnement-là. On m'a appris depuis que je suis toute petite ces choses-là. Donc j'ai effectivement et une appétence et une connaissance pour ces sujets de par mon héritage familial. Et voilà, et en fait, effectivement, moi, à 12 ans, je voulais faire fleuriste, sauf que, en gros, vu le peu de crédit qu'on donne aux formations pratiques en France et aux formations manuelles, enfin, en tout cas, maintenant, c'est en train de changer, mais il y a 25 ouais. ans ou 30 ans, quand moi j'étais en âge de me déterminer, c'était pas quelque chose qu'on favorisait trop. Si vous aviez la possibilité de faire des études supérieures, c'était plutôt vers ça qu'on vous poussait. Et donc, moi, j'ai fait des études qui n'ont rien à voir, puisque moi j'ai fait Sciences Po. J'ai effectivement été... Alors, moi, ce qui m'anime, c'est quand même, depuis le départ, il y a un truc, il y a un fil rouge, c'est l'intérêt général.
Oui.
Donc, je pense que on peut le servir de diverses manières, en s'engageant auprès d'associations, en s'engageant en politique, etc. Enfin, voilà, il y a mille choses à faire. Mais aujourd'hui, je le fais au travers du biais de l'entreprise, parce que, et pour être passée par la politique notamment, je trouve qu'aujourd'hui, l'entreprise est le lieu dans lequel on a le plus de manettes ouais. et de pouvoir, en fait, pour changer la vie des gens.
Je te rejoins complètement. C'est vraiment pour ça que je voulais qu'on puisse faire ce podcast. C'est vraiment ça. Le rôle de l'entreprise aujourd'hui est fondamental et génial, quoi.
Ouais.
Et là, en fait, tu peux impacter et rayonner avec Fleur d'ici, ce que tu fais d'ailleurs, d'une manière mais énorme, peut-être par rapport à ce que tu avais l'opportunité de faire dans tes activités précédentes.
Alors moi, j'ai adoré être journaliste, puisque, et j'étais pas journaliste pour n'importe qui, ça aussi c'est important, c'est-à-dire que j'étais journaliste pour la BBC, qui est une chaîne publique, hein, financée par les deniers de l'État et des taxpayers britanniques.
Ouais.
Mais qui a une mission mondiale d'éducation, en tout cas de awareness, on dirait, d'éducation de la population mondiale sur des sujets extrêmement variés. C'est quelque chose que moi j'ai adoré. Je dis souvent que mon frère et moi, on s'est réparti la tâche, c'est-à-dire que lui, il est prof, et en plus, il est prof en ZEP, alors que, il est agrégé, okay. mais il a fait des choix d'enseignement qui sont un peu. Engagé, on va dire.
Ouais.
Et moi, de la même façon, je m'occupais des grands. En fait, lui s'occupait des petits et moi, je m'occupais des grands. Mais l'idée, c'était comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens aient un sens critique développé.
Oui.
Et qu'ils puissent prendre les bonnes décisions, à la fois quand il s'agit de mettre son bulletin de vote dans l'urne, mais aussi quand il s'agit de mettre sa carte bleue dans la machine. On a toujours été animés. À nouveau, je pense que c'est une question d'éducation à la base sur ces questions-là. Et après, j'ai fait du conseil en communication, toujours en me disant qu'il fallait que l'idée... Enfin, ce qui était intéressant, c'était aussi de donner les outils. Philippe Morris, bizarrement, ils ont une bien meilleure manière de communiquer que le WWF. Enfin, même si le WWF, ils sont plutôt bons.
Oui,
mais
ce que je veux dire, c'est que... En règle générale,
c'est que souvent, les gros corporates qui font pas toujours des choses très bien ont... sont un professionnalisme que n'ont pas nécessairement les for good. Ouais. Et du coup, je m'étais dit que c'était intéressant d'aller apprendre ces techniques auprès des gros corporates pour pouvoir ensuite les appliquer dans d'autres secteurs, on va dire.
En espion, quoi. Non, mais en tout cas, c'est intéressant. C'est dans une vision. N'était pas partie à ce moment-là, en fait.
Non, avec un projet. En fait, à ce moment-là, il était question que j'aille travailler notamment pour un ministère sur des questions de communication. Et c'est un peu ça aussi. C'est que à l'époque, la communication publique, c'était un truc. Moi, je venais d'Angleterre où c'était hyper poussé. Et en France, on était... c'était les balbutiements, en fait. On était encore au stade où on envoyait des communiqués de presse deux jours après. Il n'y avait pas de porte-parole. Enfin, c'était dingue, quoi. Et je me disais, mais il faut vraiment, notamment pour expliquer l'action publique. Enfin, moi, je reste quand même très intéressée par le régalien, par le rôle de l'État. C'est un truc qui me semble quand même assez fondamental, même si je pense qu'aujourd'hui, comme je viens de le dire, les entreprises sont peut-être plus agiles dans leur façon de faire changer le monde.
Ouais.
Mais en tout cas, le rôle de l'État reste quand même celui-là, en tout cas de mon point de vue. Et donc voilà, et donc faire savoir et expliquer et faire de la pédagogie sur les mesures gouvernementales, sur la politique d'État, etc., c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et donc voilà, donc je m'étais dit que c'était intéressant d'aller apprendre toutes ces techniques-là. Et puis après, bon, bah voilà, on l'a compris, dans mon parcours, l'éducation, c'est un truc qui est assez fondamental, enfin, tout ce qui tourne autour des questions d'éducation. Et donc dans mon dernier poste, je m'occupais du sommet mondial dans l'innovation pour l'éducation. Et qui est le Davos mondial qui en fait rassemble tous les innovateurs de tous les pays du monde qui pensent les pédagogies de demain dans un monde où on sait pertinemment que les gens qui ont 8 ans aujourd'hui, bah, on ne sait pas bien en fait quel métier ils feront dans 20 ans parce qu'en fait les métiers de dans 20 ans on ne sait pas ce que c'est. Mmh. Et que donc il faut mieux s'attacher à transmettre des savoir-être que des savoir-faire. Et toutes ces questions-là, on les pense ici en France et en Europe, mais on les pense partout dans le monde, et en particulier dans des pays comme l'Inde ou la Chine, où la jeunesse de la population fait que c'est des questions qui prennent encore plus d'acuité.
Oui, bien
donc,
sûr. Voilà.
Donc, c'est des choses sur lesquelles moi, j'ai beaucoup aimé réfléchir, et c'est aussi ce qui m'a permis de croiser la route des entrepreneurs sociaux, qui était un monde que moi, je ne connaissais pas du tout. C'est-à-dire que moi, je venais d'un monde où il y avait le for-profit d'un côté et le non-profit de l'autre.
Et là, on est en quelle année quand tu rencontres justement ces entrepreneurs sociaux ?
C'était il y a même pas une dizaine d'années, en 2013, quelque chose comme ça, donc il y a 7 ans. Donc ça reste quand même quelque chose d'assez récent. Après, moi, j'avais quand même conscience, parce que j'avais travaillé dans des environnements anglo-saxons, de cette porosité qu'il y avait entre le fait de servir l'intérêt général et d'avoir un modèle économique.
Oui.
Mais disons que c'est vraiment à ce moment-là que j'ai pu l'appréhender de près. Enfin, notamment, moi, je travaillais avec Simplon, avec Frédéric Bardot. J'ai pu voir de près ce que c'était que de combiner les deux et comment ça se passait dans ton modèle économique et quelles étaient les implications, etc. etc.
Oui, donc tu t'es pas lancé sur un modèle économique from scratch. Tu avais aussi pu, avec Fleur d'ici, je veux dire, tu avais aussi pu voir qu'il y avait des gens qui y arrivaient, en fait. Il y avait des gens qui arrivaient à monter des boîtes, à servir l'intérêt général et en même temps à avoir un business qui tourne, qui est rentable et qui joue le rôle de l'entreprise, quoi.
Ah bah complètement. Enfin, de toute façon, je pense que Fleur d'ici, on n'est pas né hors sol, hein, je veux dire, sans mauvais jeu de mots. Il y a un côté, nous, on s'est beaucoup inspiré de modèles comme Simplon dans l'éducation, Phoenix dans le recyclage, les déchets, enfin tout ce qui est sur le cycle de vie d'un produit, en fait, qui est quelque chose qui nous intéresse beaucoup puisqu'on travaille sur une question de filière, donc avec vraiment cette question de cycle de vie du produit, etc. Ouais. Je pense aussi à La Ruche qui dit oui, bien sûr, donc Guilhem Cheron. Voilà, donc on n'est pas parti de rien, on est pionnier sur le secteur de la fleur, mais on n'est pas pionnier de l'entrepreneuriat social.
Oui, bien sûr.
Heureusement, il y a des gens qui...
Et c'est quoi qui a lancé la décision ? Parce qu'au final, il y a un moment donné quand même où tu rencontres ces entrepreneurs sociaux, t'es toujours sur ces thématiques, on va dire, qui te passionnent d'éducation. Qu'est-ce qui fait à un moment donné que ça déclenche et que tu dis, bon, c'est parti, je lance Fleur d'ici ?
Alors, désolée, c'est complètement cucu la praline. Et en plus, c'est totalement auto-centré. Mais la vérité, c'est que donc, j'ai eu un enfant en 2015. Alors, on devrait tous se poser ces questions-là et tout le temps. Mais la vérité, c'est qu'au moment où moi, j'ai eu un enfant, en tout cas, la question de quelle est la planète que je laisse derrière moi, elle a pris encore plus d'acuité. C'est-à-dire qu'avant, c'était quelque chose... Enfin, moi, j'ai toujours été engagée, l'intérêt général, l'environnement, l'écologie. Enfin, c'est évidemment, ça a toujours fait partie de ma vie. Mais à ce moment-là, il y a quand même eu... Enfin, ça se traduit de façon très concrète, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une toute petite personne dont on se sent totalement responsable. Et donc, il y a une incarnation, en fait, de qu'est-ce que c'est que ce truc-là. Ça devient très réel, en fait. La planète qu'on laisse derrière, ça devient quelque chose de tangible.
Et là, on voit que c'est la première prise de conscience, elle passe par là. Elle passe par les nouveaux parents aujourd'hui. Hein. C'est...
Alors, je trouve que c'est un peu... Du coup, nous, en plus, on est des filles, on fait des fleurs, donc on a toujours un petit peu cette image d'épinal qui nous colle de « c'est des mamans, c'est des mompreneurs ». Bon, nous, c'est pas vraiment ça, le sujet, hein, mais néanmoins, donc c'est quelque chose sur lequel je communique pas très facilement parce que je trouve que ça nous remet une couche sur « ah bah oui, c'est des mompreneurs, c'est un petit projet ». Enfin, vous voyez, je dis toujours... C'est les nanas qui disent que ça peut être mal perçu, en tout cas en termes du coup de quelle est l'ambition du projet et comment est-ce qu'on veut changer le monde, en fait. C'est pas juste, je l'ai pas fait juste pour moi, pour me faire plaisir et pour me donner bonne conscience. Ça se combine avec ça, mais ça n'empêche pas que l'ambition, elle est de transformer la consommation mondiale sur le sujet, quoi.
Ouais. Après, il y a aussi une image, c'est marrant de parler de mumpreneurs parce qu'en fait, il y a aussi des dadpreneurs. J'ai l'impression que c'est les nouveaux parents de manière générale qui ont une prise de conscience au moment de l'arrivée de l'enfant. Et on parle beaucoup des mumpreneurs, mais moi, j'ai vraiment l'impression que les hommes sont un peu dans la même situation, non ? D'avoir une prise de conscience à partir du moment où le bébé est vraiment là et de se dire, bah, j'ai aussi envie d'impacter. Et au final, on aime bien remettre la femme dans son rôle de maman dans ces moments-là, alors que c'est juste assez général. Moi, j'ai vraiment l'impression, en tout cas, et même de ce que j'ai pu lire, parce que je trouve ça intéressant, ce sujet, que les hommes sont aussi de la partie pour le coup. Et peut-être que là, on n'en parle pas beaucoup, là où on pourrait en parler un petit peu plus.
Bah, c'est-à-dire qu'effectivement, un homme ne se définit... De toute façon, un homme entrepreneur n'est jamais défini par rapport à son sexe, à son genre. En revanche, une femme, quoi qu'on fasse, on est toujours ramené à ça. Donc voilà, c'est pour ça que moi, je ne m'étends pas trop sur ces sujets-là, parce que je trouve que sinon, ça vient encore alimenter ce moulin-là et que je trouve pas très intéressant, en fait. C'est-à-dire que la réflexion... Enfin, à nouveau, moi, bien sûr, ça a été déclencheur, mais effectivement, de la même façon que si j'avais été un homme, effectivement. Oui. Mais c'est pas toujours comme ça que c'est perçu, donc voilà.
Bien sûr. Donc du coup, bah, c'est un élément déclencheur avec un bon travail de terrain qui a été fait quand même pendant des années avant, qui amène du coup à lancer Fleur d'ici. Ça se passe comment, les débuts de Fleur d'ici ? Est-ce que la vision, elle est claire directement ? Est-ce que... Déjà, c'était relancer le marché français de l'horticulture, en fait, parce que c'est une vraie mission, ambition, pour le coup, que Fleur d'ici porte, qui est géniale, pour laquelle tu as reçu la médaille de l'Ordre national du mérite par Nicolas Hulot en décembre 2019. Donc, c'est quand même pas rien. On reconnaît aussi le travail qui est fait. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus ? C'était comment... Bah, voilà, tu te lances, tu as cette réalisation... qui pourrait paraître niaise, tu te lances, c'est plus signé que ça très, très rapidement après. Comment ça se passe ?
Alors, déjà, moi, j'avais déjà monté une boîte avant. Donc, je me définis vraiment de toute façon à la base comme un entrepreneur. J'ai la chance, en plus d'avoir été exposée par mes modèles familiaux à de l'entrepreneuriat et à de l'entrepreneuriat féminin. Et donc, c'est extrêmement important, il faut insister sur ce point, sur... les rôles modèles, comment ça marche. Et vraiment, moi, je me souviens, quand j'étais à Sciences Po, tous mes camarades voulaient travailler, être fonctionnaire, quoi. Et je me disais, mais quand même, c'est bizarre, vous pourriez... Enfin, je sais pas, il y a plein d'autres choses à faire, etc. Et en fait, je réalisais pas que moi, j'avais eu la chance d'avoir été exposée à d'autres modèles. Et donc, je pouvais me projeter différemment. Donc, c'est très important. Ça, c'est-à-dire que faut sortir de ce mythe de « oui, c'est moi, j'ai tout fait, je suis Wonder Woman ». Non, c'est pas vrai. En fait, je suis le produit d'un héritage culturel, familial, économique. Voilà, donc, faut savoir rendre à César ce qui est à César. Et donc, moi, je suis très reconnaissante, notamment à ma tante qui avait monté une entreprise, qui en plus était dans la phytothérapie, donc avec déjà cette notion sur autour des plantes, de la nature, etc. Donc tout ça ne vient pas de nulle part. Alors après, en plus, c'est la bonne distance, ma tante, parce que ma tante, c'est pas ma mère. Donc j'ai pas tous les problèmes de loyauté,
de relationnel.
C'est complètement autre chose. Et donc c'est vraiment super de pouvoir s'appuyer sur des modèles qui sont suffisamment proche, mais suffisamment loin aussi, pour pouvoir créer son propre, sa propre entreprise sans avoir toutes les questions de « je fais mieux, je fais moins bien », enfin voilà. De pas ouais.
Et en même temps que ce soit quand même un modèle féminin, c'est clair.
Exactement, mais en même temps que ce soit un modèle féminin et un modèle en plus, dans mon cas, de réussite quand même assez spectaculaire. Donc voilà, c'est hyper encourageant de savoir que c'est possible. Et ouais. En plus, il y a 30 ans ou 40 ans, donc un moment où c'était quand même, je pense, moins facile aussi pour une femme d'entreprendre. Voilà. Donc déjà, il y a ça, j'insiste là-dessus, parce qu'il y a un point d'héritage culturel qui est quand même assez important.
Oui.
Ensuite, il y a concrètement comment ça se passe. Il y a, moi, je démissionne. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens souvent qui se disent « j'aimerais bien trouver un job dans l'impact, etc. », ils ne veulent pas lâcher la proie pour l'ombre ou l'entrepreneuriat. Et je comprends, c'est compliqué. Mais en même temps, je trouve qu'il faut savoir des fois se mettre au pied du mur pour agir.
Je te rejoins complètement, oui. Voilà, tout lâcher, sauter dans le vide. Et puis, y a toujours un filet au final et c'est l'étape d'après, quoi.
En fait, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je dis, j'ai une expression fétiche ici. Je dis, moi, j'ai lâché la rampe, quoi.
Oui.
Et il y a vraiment ça. C'est-à-dire, ce truc de se dire, en fait, pour penser l'innovation, notamment, il faut lâcher la rampe, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser par rapport à des modèles existants, par rapport à des idées, comme quoi, voilà, il y a des étapes. Les gens qui me parlent de roadmap, etc., ça me fait toujours un peu rigoler. Bien sûr qu'on a une roadmap, mais on sait aussi à quel point c'est théorique, une roadmap. Oui. Et voilà. Et donc,
oui, c'est comme les business plans à 5 ans. Voilà. C'est pour les investisseurs, et puis après...
Exactement. Ça rassure tout le monde, c'est super. Ça ne reflète pas vraiment la réalité. Et donc, il faut avoir ce courage de se dire que la réalité va être très différente, mais souvent beaucoup plus positive et encourageante que ce qu'on avait imaginé, en fait. C'est-à-dire que alors, les difficultés arrivent, elles arrivent souvent d'ailleurs par un biais qu'on n'avait pas imaginé au départ. Mais donc comme quoi, se faire des idées, des plans, etc.
Et c'est quoi, par exemple, là tu dis les difficultés arrivent même plus rapidement que ce qu'on pense, c'est dans la vie, parce que Fleur d'ici, ça démarre en 2016. Si je dis pas de bêtises.
2010. En fait, ça a démarré vraiment en 2018.
Ok.
Donc, on est des bébés, on a 2 ans, sur notre segment principal. Et on a commencé à exploiter sur le segment secondaire chez nous, qui est le B2C, en septembre 2017. Okay. Donc, on a 2 ans et demi d'exploitation, et dont 2 ans sur notre segment principal.
Ok. Et donc, du coup, segment donc secondaire qui était le principal à la base, il y avait une vision plutôt B2C. Non, vas-y, dis-moi, justement.
Non, en fait, donc Fleur d'ici, nous, on a... Alors déjà, tu me disais les fleurs, etc. Oui, bien sûr, les fleurs. Mais pourquoi les fleurs? Les fleurs, on s'est attaché à faire ce produit-là au départ parce que c'est du frais et du fragile. Donc, c'est vraiment un produit qui est compliqué à travailler et sur lequel, en plus, on avait une compétence, moi et mon associé, particulière parce qu'elle, elle était acheteuse jardin chez Leroy Merlin. Oui. Moi, par mon atavisme familial. Mais voilà. Mais il faut bien comprendre que dès le départ, nous, on avait de toute façon une vision de comment on va pouvoir révolutionner, disrupter, pour utiliser un mot cher, oui, aux startups, comment on va pouvoir disrupter la supply chain. Alors, c'est là où on perd tout le monde en général, pour pouvoir mieux redistribuer la valeur en fonction du travail et pas du capital. Alors attention, là alors, j'ai dit plein de mots compliqués. En gros, depuis l'après-guerre, on a réorganisé les circuits de distribution et de logistique d'une certaine façon concentrée, qui fait que la valeur, elle est captée par... quelques intermédiaires dans la chaîne, mais pas nécessairement les personnes qui ont fourni le plus de travail. Et donc, en fait, nous, on s'est dit, il faut réorganiser le commerce,
oui,
à une échelle locale, de façon beaucoup plus fragmentée, ce que permet de faire le digital, ce que ne permettait pas... Enfin, je veux dire, c'est bien joli, oui, tout ça, mais c'était pas possible, en fait, avant. Mais on est justement à l'aube, à mon avis, d'un nouveau système de commerce et de distribution, qui permet en fait à chacun d'être à chaque acteur de la chaîne d'être rétribué justement en fonction du travail qu'il a fourni.
Oui.
Et nous, c'est ça qui nous anime en fait depuis le départ. Alors la fleur, c'est un des exemples de ce qu'on sait faire, mais en fait nous, c'est Fleur d'ici propulsé par WeTradeLocal.io. WeTradeLocal.io, c'est notre appli de gestion, enfin tout le digital sous-jacent en fait, okay. qui permet de faire fonctionner Fleur d'ici, mais qui permettrait de faire fonctionner potentiellement plein d'autres filières.
Et qui explique pourquoi vous vous considérez vraiment comme une start-up de la tech. Parce que c'était une de mes questions, justement, c'est quand on voit Fleur d'ici, moi je me dis, bah, génial, en effet, ça disrupte un marché, ça ramène de l'impact, on est toujours dans la fleur, donc au final c'est du e-commerce. Et puis, en fait, je voyais surtout l'aspect e-commerce qui pouvait être B2B ou B2C, mais en fait, c'est ce dont tu viens de parler qui est peut-être moins visible.
C'est pas visible du
qui
tout.
Qui est l'outil tech que vous avez créé, quoi.
En effet, ce qui est totalement innovant chez Fleur d'ici, c'est pas, bien sûr, on disrupte un marché, mais c'est pas le e-commerce. Enfin, je veux dire, le e-commerce, j'ai envie de dire, tout le monde en fait aujourd'hui. Enfin, il n'y a rien de très innovant là-dedans.
Oui, oui c'était une innovation de marché.
Voilà.
Ça se faisait pas trop sur.
Ou c'est une innovation d'usage, on va dire, sur notre produit, sur comment on réexplique aux gens. D'abord on leur fait prendre conscience des impacts négatifs d'un marché, on leur dit vous pouvez changer et consommer différemment, etc., etc. Ce qui est déjà énorme, ce qui est déjà beaucoup, et ce qui a des impacts très concrets. Nous, en ce qui nous concerne, nous on réduit l'impact carbone de la filière par 30, donc c'est considérable.
C'est énorme.
Voilà. Donc rien que sur cette filière là mais en fait il faut comprendre que Fleur d'ici c'est un POC. En fait, c'est un pilote. C'est un pilote d'autre chose qui est cette idée de comment on arrive à faire travailler en local, à une échelle régionale, des unités de production agricole, donc dans notre cas, des horticulteurs, des gens qui produisent des fleurs, donc des gens qui travaillent la terre, avec des unités de transformation locale. Dans notre cas, c'est des fleuristes, donc c'est eux qui vont être amenés à transformer la matière, qui sont en plus avec une dimension artistique, artisanale, etc. Des unités de logistique décarbonées, des livreurs responsables qui gagnent bien leur vie, qui sont en vélo ou en véhicule électrique, etc., etc. Et des clients. Et en fait, comment est-ce qu'on organise à une échelle locale une nouvelle forme de commerce qui permet en fait de se passer des intermédiaires qui prélevaient une grosse partie de la valeur juste pour organiser le marché. Nous, on dit, on n'a plus besoin de ça aujourd'hui, en fait. On n'a plus besoin d'organiser le marché parce que la logistique peut être gérée différemment, parce que le digital, en fait, apporte tout un tas de services qui font que, bah, déjà, on peut supprimer les stocks, on peut travailler en flux, qu'on peut, du coup, optimiser. Si on n'a plus de stock, on perd moins de matières premières, donc on optimise aussi de ce côté-là, ce qui est mieux pour la planète, ce qui est mieux en termes de valeur, ce qui est mieux en termes de prix. Enfin, bon, voilà. Donc, il y a 1000 choses à faire, en fait, sur ces marchés-là.
Et je reviens là-dessus, parce que, du coup, dans l'histoire de Fleur d'ici, donc ça, c'est la vision depuis le début. Donc, c'est vraiment, en fait, dans la création, quand vous vous retrouvez toutes les deux en disant « on va partir de la fleur, mais ce qu'on fait, c'est un truc plus profond, au final », vous avez déjà toute cette chaîne, c'est-à-dire que l'histoire de Fleur d'ici commence par la création de cette chaîne de valeur ou l'imagination, puis quoi, vous appelez les fleuristes, les horticulteurs, comment vous les démarchez, parce que moi je me rends même pas compte, on sait que c'est plus de 90%, je sais plus, des fleurs qui viennent de l'étranger,
c'est ça.
Colombie, Hollande,
9 fleurs sur 10, ouais.
Voilà, c'est ça. Donc du coup, les horticulteurs ont au fur et à mesure disparu. D'ailleurs, la page mission sur le site est géniale. Elle est vraiment géniale parce que ça explique ça mais hyper simplement, quoi. Moi, j'ai même réappris des choses. Ouais, vraiment passionnant. Et du coup, comment on fait à ce moment-là quand on se dit on va révolutionner ça? Parce qu'il reste des horticulteurs. Ouais. Est-ce que peut-être vous aidez la filière à se relancer? Est-ce que vous avez un rôle sur tout ça?
Bien sûr.
Dès
le départ. En fait, nous, on a toutes les deux. Donc, comme je l'ai dit. On vient du monde de la grande distribution. Ouais. Chloé chez Leroy Merlin, moi j'ai un de mes clients principaux, c'était Carrefour. Donc on a toutes les deux cette idée dès le départ de faire quelque chose à grande échelle et de se dire comment vraiment on transforme un marché. Pas juste ok, on se fait un atelier, on se fait plaisir, c'est une belle histoire, etc. Non. Toute l'idée dès le départ, c'est comment on va révolutionner la façon dont les gens travaillent. Et donc, pour révolutionner la façon dont les gens travaillent, il faut déjà comprendre comment ils travaillent. C'est tout bête à dire, mais voilà. En l'occurrence, nous, dans notre cas, la prise de conscience principale, c'est de comprendre que les fleuristes indépendants, qui sont les principaux distributeurs. En fait, le marché de la fleur, il est essentiellement tenu par des indépendants.
Oui.
Donc, 15 000 artisans fleuristes qui maillent tout le territoire français. C'est un marché qui est encore très traditionnel. La seule chose qui est moins traditionnelle, c'est la façon dont ils s'approvisionnent. C'est-à-dire que depuis l'après-guerre, ce qui s'est passé, c'est que les Hollandais, dans les années 50, en fait, ont fait des choix industriels. Ils ont notamment choisi, justement, parce qu'ils avaient récupéré des polders, qu'ils avaient des hydrocarbures pas chers, Shell, etc. Enfin, voilà. Ils ont fait des choix qui sont ceux de la production intensive sous serre, éclairée, chauffée 24 heures sur 24.
Le bonheur.
Puisqu'à l'époque, évidemment, le carbone, on s'en fichait. Ouais. On regardait juste le prix. Et donc, en faisant... des fermes hyper intensives où on accélère le cycle de croissance des plantes, on ne respecte plus du tout leur cycle naturel, on les fait pousser hors sol, hors saison, etc.
Ce qui s'est passé dans l'alimentaire, en fait. C'est vraiment, tout le monde s'est mis au diapason sur les différents marchés liés à la terre, au final.
Exactement. Et l'horticulture, c'est à la limite la branche la plus dégueulasse. voilà. Enfin, en tout cas sur les productions industrielles à grande échelle faites par donc ces acteurs-là. Et donc effectivement, ces gens ont, par conséquent, comme ils maîtrisaient la production. Après, dans les années 70, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le premier choc pétrolier, deuxième choc pétrolier, etc. Le coût des hydrocarbures s'est renchéri, le coût du travail aussi, et donc ils ont délocalisé leur production vers des pays de l'Équateur. Kenya, Colombie, Équateur, Éthiopie.
Okay.
Voilà, sont devenus les quatre gros pays producteurs. Mais par contre, la valeur, elle reste toujours captée par ces gros consortiums hollandais-britanniques. Hein. L'argument du développement local, pas du tout. Donc, on a délocalisé la production en gardant l'outil logistique de distribution qu'ils avaient créé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fleurs, aujourd'hui, elles transitent par la Hollande, physiquement.
Et même les fleurs de Colombie, etc.
Tout transite par la Hollande. Il y a une place de marché mondiale sur laquelle les fleurs transitent physiquement. Ce qui est complètement dingue. En 2020, hein, avec le digital,
énorme.
Etc. Non, c'est ça qui est fou. C'est-à-dire que même sur une fleur comme la tulipe de Nice, c'est une AOP, vous pourrez l'acheter à Nice. Elle aura été produite dans l'arrière-pays niçois, puisque c'est une AOP.
Oui.
Okay, elle aura fait 3000 km entre-temps. Parce que les circuits logistiques ont été faits de telle façon, ont été trustés en gros par les Hollandais, de telle façon à ce que c'est eux qui récupèrent la matière première, qui la trade, qui font le marché, pardon, et qui la redistribuent ensuite.
Et ça, donc, c'est lié au fleuriste. C'est-à-dire que c'est parce que le fleuriste passe par ce consortium, parce que c'est comme ça que ça marche, que du coup, en fait, ça paraît logique en tant que fleuriste de dire bah, « je veux des tulipes de Nice, je suis à Nice ». Je demande à mon même fournisseur.
En fait, c'est tout bête, c'est que les gens ne se parlent pas.
Ouais.
Contrairement au marché du vin, où un caviste, par exemple, connaît généralement son terroir, connaît les producteurs, etc. Sur la restauration, beaucoup moins qu'on se l'imagine, mais quand même un peu plus, où les gens, puis surtout de plus en plus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les restaurateurs essayent de travailler avec des producteurs en direct, etc.
Certains,
mais c'est pas si simple.
Certains pour avoir... Enfin, c'est une des thématiques. Ouais. Certains le font, heureusement, et de plus en plus, mais on est encore sur une grosse majorité qui est pareil, qui se pose pas la question et qui achète...
Et qui travaille avec Pomona et des gros grossistes. Voilà. Donc, sur la fleur, ça n'est que ça. Et nous, le jour où on a compris qu'il y avait vraiment une opportunité et qu'il y avait un problème à régler, c'est un jour où nous, on travaillait à l'époque, c'était au tout début, on travaillait qu'à Paris en Ile-de-France, donc avec des horticulteurs franciliens, donc de la matière première, en gros, des fleurs qui poussaient en Ile-de-France. Et il y a un fleuriste de Bordeaux qui nous appelle et qui nous dit « Est-ce que je pourrais vous acheter de la matière première ? Enfin, est-ce que je peux vous acheter des fleurs ?» Il dit « Bah, nous, on est à Paris, toi, t'es en Aquitaine, est-ce que vraiment ça a du sens ?» Il dit « Bah, c'est quand même mieux que des fleurs du Kenya qui auront transité par la Hollande. » Ok, fine. Le même jour, je mens pas, c'est fou, le même jour, on a un horticulteur qui était à 10 km de Bordeaux qui nous appelle et qui nous dit « Est-ce que je peux vous vendre des fleurs ?» Et là, on s'est dit « Ah ouais, ok. » Donc vraiment, on avait bien intuité le problème, évidemment, et on s'est dit que vraiment, c'était ça qu'il fallait régler, en fait.
Oui.
C'est-à-dire recréer des circuits de distribution, de commercialisation et de logistique à l'échelle régionale. Voilà. Pour permettre, en fait, à des fleuristes de se fournir localement. Ce qui a l'air tout bête, en fait. Tout le monde s'imagine que, limite, le fleuriste, c'est lui qui fait pousser ses fleurs, qu'il a un champ derrière sa boutique, quoi. Non, mais en fait, pas du tout.
Oui.
Enfin, désolé de tuer l'image d'Épinal.
Non, mais on se pose même pas la question, parce que moi, c'est en découvrant aussi Fleurs d'ici que j'ai appris ça. Hein. Encore une fois, je m'intéresse beaucoup à l'alimentation de par mon expérience. Les fleurs, je connaissais pas du tout. Et je n'ai jamais fait le lien entre le fait de jamais avoir vu de champs de fleurs divers et variés que je pourrais trouver chez le fleuriste et voir des fleuristes blindés de fleurs, des roses toute l'année, et alors que moi, je sais très bien que les roses, ce n'est pas toute l'année. Enfin, y a un truc un peu comme dans l'alimentation, des tomates toute l'année, et puis je me demande pas pourquoi elles poussent qu'à un seul moment, mais moi je les ai tout le temps, quoi.
Ouais, c'est ça.
Bah, y a
ça
un truc, c'est de l'éducation. Hein.
C'est de l'éducation, et je pense que aussi, les circuits étant essentiellement dominés par des gens qui n'ont pas vraiment intérêt à ce que ça sache la question de la saisonnalité, etc., je pense que tout a été fait pour que cette question ne soit pas bien connue du grand public. Donc voilà, c'est un peu l'idée, c'est comment est-ce que nous on fait, d'ailleurs chez Fleur d'ici, c'est pour ça que mon passé de communicante est assez utile, on fait essentiellement du plaidoyer. On essaye de juste d'éveiller les consciences et de faire prendre conscience aux gens du fait que soyez pas forcément notre client, mais au moins posez la question à votre fleuriste. C'est-à-dire que nous, on voit, parce qu'on nous demande maintenant d'intervenir dans les centres de formation des apprentis sur les BEP fleuristes, etc.
Okay,
les
CAP, génial, les BEP. C'était une de mes questions, super.
Parce qu'il n'y avait pas du tout de module déjà sur l'écologie, sur la provenance des fleurs. Et en fait, la seule chose qu'on apprend en école de fleuriste, sur la partie approvisionnement, sur la partie sourcing, etc., c'est voilà, il y a 3 grossistes hollandais, vous pouvez les appeler. Ah, super, ok.
Actuellement dans les écoles, ouais. De... Oh là là.
Ouais, ouais. Bah, parce que.
Oui, oui, non, mais c'est marché, qu'il y a rien d'autre qui. Bah, oui, c'est ça, rien d'autre n'existe.
Donc, c'est ça, il n'y avait pas d'alternative. Donc, voilà. Alors, il y avait 3 illuminés qui faisaient pousser des fleurs eux-mêmes.
Ouais.
Mais, je sais pas, c'est 0,0001% du marché, quoi. Un truc comme ça. Enfin, c'est très, très. Bien ça sûr. N'existe pas. C'est... Voilà. Donc, non, l'essentiel, effectivement, c'était. Des gens à qui on avait expliqué qu'il fallait passer comme ça et qu'il n'y avait pas d'autre alternative, mais même sur tous les autres impacts. Enfin, je veux dire, sur l'utilisation de la mousse, l'utilisation du plastique, l'utilisation de l'eau, le compostage des déchets. Enfin bref, c'était, ouais, c'est une profession qui était encore très très loin de la sensibilisation aux enjeux environnementaux, etc. Ouais. Et pour les rares, même, vous seriez fleuriste hyper engagé écolo à Mont-de-Marsan, vous aviez juste pas d'alternative. Donc je veux dire, il ne faut pas incriminer ces gens-là, c'est juste une question de marché.
Oui, bien sûr.
Voilà, donc il fallait régler cette problématique.
Alors du coup, donc, ce qui est génial, c'est que par rapport à toute la théorie qu'on peut entendre autour de la start-up, il faut trouver la douleur de votre client et de cette manière-là, vous allez pouvoir. En fait, bah, par empirisme, au final, vous vous êtes lancé, vous avez bien quand même travaillé le sujet et ça s'est manifesté avec cette fameuse journée improbable avec les 2 appels parfaits. Donc du coup, bah, ça indique aussi qu'il faut aller dans cette direction. Comment ça se passe derrière ? Parce que là, du coup, vous êtes une dizaine ?
On est 20.
Vous
en
êtes
fait,
20 ?
Parce qu'on on a 2 sièges ici, tu es au siège parisien, mais on a un siège au Mans. Donc ouais. Ici, c'est le front. C'est le front office, donc okay. On a la com, le commercial, etc., une partie de la tech. Et après, au Mans, on a tout le back, donc le service client, la logistique, finance, admin, enfin voilà. Okay.
Et pourquoi avoir séparé les 2 ? Parce que vous venez du Mans, parce que...
Voilà, ouais. En fait, déjà, le maire du Mans, c'est Stéphane Le Foll, qui est l'ancien ministre de l'Agriculture, qui avait lancé Fleur de France. Donc, qui était le premier à avoir essayé de sensibiliser le grand public sur cette question de la provenance, etc., okay. etc. Donc, ça tombe très bien. Il se trouve que la région Pays de la Loire, dans laquelle est située la ville du Mans, pour ceux qui sont pas très forts en géographie, c'est la 2e région de production en France. Donc, c'est celle sur laquelle on a beaucoup d'impacts territoriaux réels, puisque nous, en redéveloppant l'horticulture française, forcément, on a un impact territorial en termes d'emploi, en termes de surface agricole, en termes de biodiversité, etc.
Et ça, vous pouvez le mesurer ?
Oui, bien sûr.
Ah, c'est génial. Ok, et vous sortez, pour le coup, moi, je n'ai pas vu, mais peut-être que vous le sortez en newsletter, je n'étais pas encore inscrite ou je ne sais pas. Mais du coup, vous sortez les chiffres, peut-être trimestriellement ou quoi, pour qu'on sache justement.
Alors justement, j'en parlais ce matin avec, sur les mesures d'impact avec la personne qui va se charger de ça. Pour l'instant, on n'a pas encore publié de mesures d'impact, mais c'est toute l'idée, c'est comment, enfin nous on veut pas faire des choses un peu fallacieuses, donc on essaie de travailler de façon un peu scientifique sur ces questions-là, et donc c'est pour ça que jusqu'ici on n'avait pas vraiment trouvé les bons indicateurs, mais on est en train de regarder, enfin l'indicateur carbone il est assez facile à mesurer, parce que ça il y a des études, mais après sur tout le reste, sur les équivalents temps plein, etc., c'est ça. Bon, c'est pas si compliqué que ça à mettre en place, hein, mais disons
c'est
que
un peu de créativité, voilà, formaliser quoi.
Voilà, et puis il faut le faire de façon un peu sérieuse. Donc, mais oui, c'est effectivement c'est quelque chose sur lequel on travaille. Et donc oui, ici on est donc en tout pour répondre à ta question, en tout on est une 20aine.
Ouais.
Et après on s'appuie aussi, nous on travaille avec l'École des Mines de Paris, qui est notre partenaire sur justement l'intelligence artificielle, enfin toute la partie. en fait, on mène un projet de recherche fondamental
ouais.
En intelligence artificielle sur la reconnaissance des variétés. Donc, sur. Okay. Voilà. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait. Donc, on a aussi des gens qui sont là-bas,
okay.
Qui travaillent sur ces questions-là. Voilà. Donc, on a. Comment on fait après, la question, c'était comment on fait oui, après je... le.
Bah oui, et puis comment vous êtes organisé. Du coup, il y a de la com, il y a une personne donc, sur l'internationalisation, il y a. Donc, ça veut dire internationaliser ce process. Évidemment, c'est pas refaire un modèle non. hollandais-français.
Non.
Bah oui, comment c'est organisé ? Combien de personnes à la com ? Tu parlais de plaidoyer, j'ai l'impression que votre com passe beaucoup par là, c'est ce que tu disais.
Ouais.
Mais comment vous envisagez ça ? Parce que, est-ce qu'il y a eu un avant-après, à un moment donné, un événement qui a changé, une stratégie qui a fait que d'un coup vous avez été beaucoup plus visible ? Ou est-ce que c'est tout ce travail de fond et puis à un moment donné, mais j'ai l'impression d'entendre parler de vous, alors peut-être que aussi j'ai découvert du coup je suis et que je suis plus très objective. Mais d'entendre beaucoup plus parler, en tout cas, ou de t'entendre beaucoup plus dans de la presse, même traditionnelle, depuis quelques mois, là où tu dis que bon, vous êtes très jeune, mais ça a quand même commencé en 2018.
Il y a un effet d'accélération, là, depuis 2-3 mois,
okay.
Effectivement, parce que j'ai été finaliste du prix Madame Figaro Business with Attitude, donc voilà.
Ouais.
J'ai gagné le prix de l'entrepreneur social du Boston Consulting Group.
Ouais.
On a participé à pas mal de... Effectivement, on demande de plus en plus en fait, de parler parce qu'en fait, finalement, des modèles comme le nôtre, il n'y en a pas des masses.
C'est clair.
Mais encore fallait-il pour que... Enfin, ça existe depuis le départ, mais il fallait encore que les gens comprennent oui. ce qu'on fait. Et on l'a expliqué depuis le départ, mais en fait, les gens ne l'ont pas entendu au départ. On a... quand même beaucoup été catalogué parce que ça correspondait aussi je pense à une image d'Épinal sympathique à deux nanas qui font leur crise de la quarantaine justement en quête de sens et d'impact et tout ça et qui deviennent fleuristes dans un atelier avec un tablier.
Ah oui.
Ouais. Donc on a c'est pas faute d'avoir essayé d'expliquer que si on était une boîte de tech et que on faisait enfin ouais. voilà qu'on avait d'autres ambitions etc mais ça a pas toujours été très entendu parce que je pense que en plus notre modèle qui est un modèle justement mixte c'est-à-dire que souvent c'est dans la startup nation il y a d'un côté les gens qui portent des visions hyper ambitieuses etc machin mais qui en fait c'est sur la base d'un PowerPoint. Enfin,
ouais.
en gros,
ouais, ouais.
Et qui vont faire des valorisations stratosphériques et des levées tout aussi stratosphériques, etc., mais sans avoir vraiment testé, en fait, le marché, ouais. souvent. Ou alors, il y a des projets qui sont considérés comme un peu plus petits bras. Voilà. Enfin, d'ailleurs, ça n'existe pas trop dans la Startup Nation. C'est plutôt dans les modèles de PME classiques.
Oui, c'est ça, en fait.
Voilà, où on teste et on monte. Et ouais. C'est ça. Et on monte une marche après l'autre, etc. Et nous, on est à la croisée de ces deux... Enfin, c'est là où... Moi, je suis centriste. C'est-à-dire que je pense que... Et ça se traduit beaucoup dans tout ce qu'on fait, en fait. C'est-à-dire
ouais.
qu'on est très, à la fois très ambitieuse et très modérée dans la façon dont on construit les choses. C'est-à-dire que quand on dit quelque chose, c'est vrai. On l'a testé, on l'a éprouvé. On voit très bien comment on va faire des projections. On fait des Alors nous, on nous a beaucoup reproché, justement, de ne pas faire des projections suffisamment délirantes. Quoi. Mais oui, mais justement, faut vivre après avec ouais. son modèle. Il faut que ce soit possible, tout ça. Donc,
puis on est peut-être vous inscrivez aussi dans l'époque, j'ai l'impression, d'aujourd'hui, où on revient à un petit peu plus de sobriété d'un côté. Comme tu disais exactement, les deux extrêmes, soit valorisation à 1 milliard... tout le monde mise là-dessus, la boîte n'est pas rentable depuis 6 ans, mais il n'y a pas de problème, on continue à investir, ou soit plus de sobriété, et qui n'est pas forcément quelque chose de moins valorisant. J'ai l'impression que c'est en train de monter doucement, de se dire, et si on valorisait aussi ça dans le symbole, pas forcément dans la valeur de l'entreprise, mais enfin, valeur, je veux dire monétaire, mais aussi dans le symbole, ben, tiens, peut-être que essayer, ça marche, et grimper les échelons comme ça...
C'est-à-dire que nous, ça nous avait pas traversé l'esprit, par exemple, de créer un modèle qui soit pas rentable.
Ouais.
C'est bête, hein.
C'est une vraie question aujourd'hui, hein.
Nous, on s'est attaché, en fait, dès le départ, à créer un modèle économique, en tout cas, qui soit viable
ouais.
pour tous les partenaires et qui soit viable à grande échelle et très vite. Notamment parce que, en fait, quand on veut faire de l'impact, le fait d'aller vite, c'est important. Et donc, c'est en ça que la Startup Nation peut très bien se marier avec l'impact. C'est-à-dire que cette idée de croissance rapide parce que ça va apporter une solution rapide. Et on sait bien qu'en gros, on a 10 ans
Pour on
changer
est dans
le modèle et sauver la planète. Donc, il y a une vraie urgence. Donc, c'est pour ça que nous, on n'a pas de problème à penser les deux. Mais néanmoins, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas en faisant n'importe quoi. Et je pense que c'est aussi parce que tu dis que les modèles un peu plus sobres sont en train d'émerger. Je suis d'accord. Et je pense que c'est aussi en fait, lié peut-être au fait qu'il y a des équipes mixtes et qu'on n'envisage quand même pas le business exactement de la même façon. Souvent,
exactement.
Quand on est un jeune homme de 25 ans ou quand on est une femme de plutôt 40. Enfin, voilà, je pense qu'il y a, on appréhende les choses peut-être de façon un peu différente et peut-être plus pérenne, en fait, et avec une vision plus long terme. Mais en ayant néanmoins des objectifs de croissance et assez rapides, mais parce que c'est justement à nouveau au service de régler des problèmes qui ont une forme d'urgence aujourd'hui.
Oui. Oui, parce que aussi vous êtes parce que la croissance rapide, j'ai l'impression, ça me fait penser à un article qui a sorti Loom il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si tu as vu, qui est hyper intéressant sur justement et si les entreprises, même qui font le bien, devaient en fait repenser leur modèle.
Ouais.
Et si on parlait de la décroissance et qu'on arrêtait d'avoir des objectifs de croissance, il y a quelques entreprises, genre Buffer, par exemple, pour les outils digitaux, qui ont fait ce choix-là. Et c'est hyper intéressant de se dire, bah oui, pourquoi pas, en fait. Et donc, du coup, mesurer l'impact environnemental en premier par rapport à la croissance. Mais ce qui ne veut pas dire que l'entreprise ne peut pas croître. Mais c'est ce qui veut dire simplement qu'on ne veut pas forcément devenir mondialisé. Sauf que là où ça reprend du sens, je trouve, avec votre modèle, c'est que vous, vous amenez un modèle plus vertueux par rapport à un modèle mondialisé actuellement, dans tous les cas, qui part d'un lieu. Et donc là, peut-être que vous, ça a effectivement du sens d'être...
C'est-à-dire que ce n'est pas antinomique, c'est pas parce qu'on va faire de la croissance qu'on va saloper la planète. Quoi.
Oui.
c'est même plutôt l'inverse. C'est-à-dire plus on va faire nous, plus on va développer notre modèle... plus on va convertir d'acteurs à travailler mieux.
Mm.
Et ça ne veut pas dire développer l'hyperconsommation, pas du tout.
Non, parce qu'en fait, c'est prendre des parts de marché d'un modèle qui a le monopole.
Exactement.
En gros,
ça veut dire juste transformer le marché.
Oui.
Et donc, y a tout à faire. Donc en fait, c'est toute l'histoire. C'est que, moi, j'entendais Philippe Moiti ce matin dans un podcast de la recyclerie sur justement comment est-ce que... qu'est-ce que c'est que l'hyperconsommation et est-ce qu'il faut passer à un modèle de décroissance et ça. Moi, je ne crois pas du tout. Enfin, ce n'est pas mon point de vue. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas... Si on dit aux gens l'impact, il est dans 2 minutes, les gens commencent à se comporter comme des sauvages. Vous savez, c'est voilà.
Bien sûr.
Donc non, il faut rester dans une forme effectivement de mesure et pas se dire on va totalement transformer le modèle et on va passer en mode totalement décroissant, on va arrêter de consommer, etc. Non, enfin, je pense qu'en plus, en termes de mentalité, ça n'est pas opérant parce que vu l'urgence, en fait, c'est pas vraiment comme ça qu'on va pouvoir régler le problème. Enfin, peut-être
c'est,
à terme,
c'est peut-être aussi sur la vision parce que j'ai l'impression qu'en fait, vous, la mission, elle est tellement intrinsèque, c'est vraiment de révolutionner un marché que du coup, il n'y a pas à se justifier ou à se poser la question de s'il faut croître ou pas. La question à se poser, c'est comment on fait pour changer le marché le plus rapidement possible. Et donc, si ça passe par la croissance ou si ça passe par la décroissance, peu importe, j'ai envie de dire.
Exactement.
Ouais, ouais.
Et nous, les gens nous demandent souvent, mais c'est qui vos concurrents? C'est qui vos concurrents? Mais on n'en a pas.
Ouais.
En fait,
c'est
nous, notre but, c'est d'absorber tout le monde et de rallier tout le monde en fait à notre cause avec les outils qui vont derrière, bien sûr. Et bien sûr que ça va générer du chiffre d'affaires, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas que c'est secondaire, mais ça va ensemble. C'est-à-dire que nous, on a réussi à trouver un modèle où effectivement, plus on va avoir de performance économique, plus on aura d'impact social et environnemental. Ce qui est quand même effectivement, je pense, pas si commun. Enfin, voilà.
Non, bien sûr. Et du coup, pour parler vraiment du modèle économique, actuellement, Fleur d'ici vit comment ? Donc, vous êtes rentable. Est-ce que, je ne sais pas si vous publiez le chiffre d'affaires, ou si ça vous dérange d'en parler, mais du coup, comment ça se passe ? C'est quoi ? Tu disais que c'est le B2B qui prend le plus de place. Comment vous avez développé ça ? Je crois que vous avez des commerciaux là-dessus, ou en tout cas, j'étais en phase de recrutement, il me semble, de commerciaux à un moment donné. Je ne sais pas où ça en est, d'ailleurs.
En fait, donc effectivement, nous, on a bien identifié depuis le départ. Contrairement à ce que souvent les gens pensent, c'est pas un modèle B2C qui a pivoté vers du B2B. C'est pas exactement ça.
Okay.
On a tout de suite eu le sentiment et la conviction que les entreprises étaient les plus rapidement mobilisables sur le fait de transformer leur mode de consommation et surtout qu'il allait avoir plus d'impact ouais. plus rapidement. Je m'explique, c'est super de travailler avec des particuliers parce qu'en plus, ça permet de mobiliser l'opinion publique, etc., de faire de la prise de conscience. Mais avant que des particuliers aient autant d'impact qu'un groupe comme Accor, avec tous ces hôtels, ouais. tous ces restaurants, tous ces lieux qui est en train de transformer sa consommation de fleurs, enfin, vous voyez, avec un acteur, on va avoir un impact que, honnêtement, pour l'avoir avec des particuliers, il faudra armer quand même beaucoup plus, quoi. Donc, c'est plus rapide, c'est plus opérant, et c'est pour ça que on a bien saisi l'urgence, en fait, comme je t'ai dit. C'est 2 exploitations sur 3 qu'on fermait dans les 40 dernières années. Ouais. Donc, nous, on a, si on ne va pas très vite, en fait, il n'y aura plus d'horticulteurs. Donc, on ne pourra même plus recréer une filière locale. Bah oui, bien sûr. Donc, il faut agir hyper vite. Et c'est pour ça qu'on s'est attaché, du coup, à le faire plutôt en s'appuyant sur les entreprises que sur les particuliers dans un premier temps. Ce qui ne veut pas dire qu'on fait aussi des particuliers. Mais c'est vrai que ce n'est pas notre focus principal, en tout cas, pas en termes de chiffre d'affaires et pas en termes d'appui de développement. Donc voilà, donc c'est vrai que nous, on fait 80% de notre chiffre d'affaires en B2B. Okay. Le marché de la fleur en France, on estime que c'est 2 milliards d'euros. C'est un marché d'à peu près 100 milliards à l'échelle internationale. 2 milliards d'euros, pour donner une référence aux auditeurs, c'est la même taille de marché que l'horlogerie. Donc, c'est pas du tout anecdotique.
Ah bah oui, bien sûr.
Mais comme c'est un marché qui est très éclaté, puisqu'il n'y a pas de gros acteurs, en fait, sur ce marché-là, c'est comme je l'ai dit, c'est essentiellement un marché qui est tenu par des artisans locaux. On n'a pas forcément une vision très claire du marché en consolidé. Sauf qu'en fait, c'est un énorme marché. Ouais. Et on estime que la moitié de ces 2 milliards sont la consommation des entreprises. Donc, ça fait 1 milliard d'euros par an en France. Et nous, l'ambition, c'est d'ici 3 ans de prendre 10% de ce marché.
Okay.
Donc, voilà. Et je pense que c'est un objectif qui est vraiment extrêmement raisonnable. Parallèlement, nous, nos clients, je viens de dire Accor, mais c'est vrai de Korian, les maisons de retraite, c'est vrai de LVMH, évidemment, enfin voilà. Mm-hmm. Beaucoup de nos clients sont présents à l'international. Et donc, eux, ça les arrange, en fait, de travailler avec nous sur tous leurs besoins.
Okay.
De façon consolidée, puisque évidemment, c'est quand même plus simple pour une entreprise d'avoir un interlocuteur unique avec un seul contrat, une seule facture, etc. Et d'avoir une assurance d'homogénéité sur la prestation et de qualité, puisque nous, c'est ça qu'on garantit, à l'échelle française, nationale, mais aussi internationale.
Et aussi internationale, mais ce qui veut dire que Hôtel Accor en Allemagne, vous allez pouvoir dupliquer le modèle français et donc partir avec des horticulteurs allemands, ça c'est ma première question. Donc,
oui, ouais, exact, tout à fait.
Trop bien.
À chaque fois, on recrée des écosystèmes locaux. Okay. Donc, ce n'est pas juste des agriculteurs.
Et ça, vous le faites à horticulteurs allemands.
Bah oui, parce qu'en fait, nous, c'est la beauté de la tech. C'est que nous, tout ce qu'on fait, c'est une appli, en fait. Ouais. Donc, il suffit
Il faut trouver les horticulteurs, quoi.
Oui, alors après, bien sûr, mais sauf que nous, on a une veille qui est très active. Et puis nous, on n'a pas besoin de milliards d'acteurs, en fait. C'est-à-dire que, contrairement à Uber, par exemple, qui a quand même besoin d'avoir un certain nombre de clients, un certain nombre de chauffeurs, etc., pour exister, nous, c'est pas le cas. Souvent, d'ailleurs, les gens disent « Ah, vous avez que… » Quand on communique sur le nombre de fleuristes en France, ils disent « Ah, ouais, c'est… » Mais non, mais en fait, ça va, nous, il y a 15 000 artisans fleuristes, mais nous, même avec 300 artisans fleuristes, on couvre toute la France, en fait. Donc, ouais. Voilà, on n'a pas besoin non plus d'avoir des millions d'acteurs pour transformer le marché. Après, progressivement, nous, notre but, c'est que les gens viennent à nous. Mais ce que je veux dire, c'est que pour opérer dans un premier temps, on n'a pas besoin d'agréger tant d'acteurs que ça, en fait. Oui.
Même avec parce que c'était à 3 ans les 10% du marché, 10% ouais. d'un milliard.
Oui.
Du coup, même là-dessus, bah oui, c'est ça, 100 millions, mais en chiffres. Même là-dessus, il va falloir aussi, j'imagine, augmenter quand même le nombre d'horticulteurs avec qui vous travaillez. Mais la vision que vous avez du marché français, c'est qu'il y en a assez, au final. Malgré les 2 sur 3 qui ont fermé, il y a encore assez d'acteurs pour permettre d'arriver à cette part de marché, quoi.
Alors, il reste à peu près 3500 horticulteurs en France.
Okay.
Donc, c'est quand même déjà pas mal. Avant, moi, c'est ce que j'ai toujours. Les acteurs traditionnels qui étaient sur le marché quand on est arrivé, qui se sont bien appliqués. Alors, c'est marrant parce que d'abord, ils sont venus nous voir assez rapidement.
Okay.
Et ils ont mis beaucoup, beaucoup d'énergie dans le fait de nous expliquer qu'on allait dans le mur et que c'était impossible parce que la production française, elle était moribonde, etc. Alors nous, on les a écoutés poliment, on a dit d'accord, ok, super, merci beaucoup. Et on a dit, je pense qu'avant qu'on ait écoulé toute la production française en France, oui. on a un peu de temps pour voir venir. Et la beauté de ce marché, c'est que les fleurs, c'est pas, moi je dis toujours, c'est pas comme un EPR, hein, c'est pas une centrale nucléaire.
Oui.
On les plante, 3 mois après, on les récolte. Et moi, je crois dans le marché. Donc, je pense que s'il y a de la demande, il y aura de l'offre. Il n'y a pas de problème. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas, y a pas, ça ne demande pas une technicité particulière. C'est pas, ça ne demande pas des investissements lourds. La fleur, il faut quand même savoir que c'est aussi ça qui est super. C'est que c'est une des productions agricoles les plus rentables au mètre carré. Okay. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est un modèle qui marche bien, notamment en agriculture urbaine, mais qui marche bien en complément, en fait, d'activité pour des gens qui, des agriculteurs qui font autre chose. On est à la fin de la PAC, même les gros céréaliers, ils se posent des questions sur comment faire un modèle mixte et comment, en plus, on sait très bien aujourd'hui que pour que les exploitations soient plus durables, il faut pratiquer la polyculture et pas la monoculture. Donc, nous, on voit bien, parce qu'on a des conversations avec plein de gens qui viennent nous voir, etc., notamment les néo-ruraux, mais pas que, aussi des acteurs très traditionnels, voyez, des céréaliers de la Beauce qui viennent nous voir en nous disant « Si je produis de la fleur, vous pouvez... » Bah oui, génial. Bien sûr. Donc voilà. Donc nous, on sait qu'on a un réservoir très large de production, et en plus avec... une facilité à le mettre en place et une rapidité à le mettre en place qui va faire que, à nouveau, le marché peut s'adapter, enfin, la production peut s'adapter assez facilement par rapport à la demande du marché. Donc, non, nous, on n'est pas inquiets là-dessus.
Et si un... Parce que là, si je repars en B2C, même si c'est que 20%, enfin, que c'est déjà ça, 20%, ouais. De l'activité, du coup, ça veut dire qu'il y a des artisans fleuristes qui jouent le jeu de travailler avec des horticulteurs locaux. Et du coup, comment les gens, le consommateur, retrouvent ces infos? Comment déjà? Parce que j'imagine que ces artisans fleuristes, ils ont aussi le rôle d'éducateur, donc de dire, bah, ça c'est de la fleur locale de saison, et la rose, parce que vous avez fait une opération de com qui était très chouette sur la rose à Saint-Valentin, est-ce que vous êtes déjà demandé si c'était normal d'avoir des roses pour la Saint-Valentin? Et c'est vrai que si on se pose pas la question, bah, on continue chaque année et puis il n'y a pas de problème. Du coup, c'est quoi la réaction un peu des consommateurs? Est-ce que vous voyez qu'il y a une demande au final? Est-ce qu'ils sont ouverts au discours de l'artisan fleuriste et derrière, bah, ils se mettent à changer leur conso? Ou est-ce que ça reste encore un peu...
Alors, nous, c'est nous qui assumons, en gros, comment ça marche Fleur d'ici. Fleur d'ici, c'est donc une plateforme dans laquelle on agrège des producteurs, des horticulteurs, des fleuristes locaux, des artisans indépendants, des livreurs indépendants et des clients. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a déjà rétabli le pont qui existait entre les producteurs de fleurs et les fleuristes, qui sont leurs acheteurs, puisqu'on oublie toujours, mais en fait, les fleurs, ce n'est pas du direct producteur. Hein. Il y a une étape de transformation, il faut faire un bouquet.
Oui.
Et un bouquet, déjà, ça demande un savoir-faire particulier qui n'est pas celui des horticulteurs. Ce n'est pas être producteur, ce n'est pas la même chose. C'est un peu comme se dire, quand vous allez au restaurant, ce n'est pas le mec qui a fait pousser les tomates qui les a fait cuire. Oui. Ça n'a rien à voir, en fait.
Oui, c'est deux métiers.
C'est deux métiers. Et souvent, les gens oublient que voilà, dans les fleurs, c'est pareil. C'est deux métiers et qui sont très, très différents. donc, voilà. Et donc, effectivement, nous, on a bien vu que les consommateurs étaient... c'est pour ça qu'on a commencé en B2C, pour tester le marché, en fait.
Ouais.
Et on a bien vu que ça a répondu très vite, très fort. Et donc, on a agrégé tous ces gens au sein de notre plateforme pour pouvoir les faire travailler ensemble et déjà faire en sorte, ce qui est, à nouveau, ça peut paraître tout bête, mais rétablir le pont entre les producteurs et les fleuristes. Donc faire en sorte que le fleuriste puisse se fournir de façon responsable auprès de son horticulteur local. Et ça, on l'a fait en créant une place de marché digitale, une marketplace, qui n'est pas visible pour le grand public. Enfin, qui n'est pas visible pour nos clients, enfin, qui est visible pour les fleuristes qui font partie de notre réseau et qui peuvent donc s'approvisionner en local, etc. Donc voilà, donc il y a ça. Après, les fleuristes, eux, ne sont pas labellisés fleurs d'ici. Ce n'est pas comme ça que ça se passe.
D'accord.
En fait. Pour pouvoir justement garantir la traçabilité du produit et le fait que la promesse soit respectée de A à Z, le consommateur lambda, il peut commander sur notre site, il commande un bouquet fleurs d'ici. Le bouquet fleurs d'ici, il est préparé par un artisan fleuriste de proximité, livré par un livreur de proximité, etc.
Okay.
Préparé à partir de fleurs de proximité, ce qui nous permet, puisqu'on garde en fait la visibilité tout au long de la chaîne, nous on dit on a la traçabilité et la transparence sur le produit de la graine au vase. On sait toutes les étapes de la vie du produit grâce à la tech, à nouveau, qui nous permet de documenter toutes les étapes, etc. Donc aujourd'hui, produit, nous, on récolte cette data, on l'a déjà tout au long, à nouveau, de la vie du produit. Et on est en train de travailler justement sur l'interface client qui permettra, de, en gros, de scanner son produit et d'avoir la fiche avec marqué « Ce bouquet a été préparé par... X à partir de fleurs produites par Jean-Michel, producteur à Étampes de pivoine depuis 4 générations, qui travaille en bio ou pas, enfin comme ci, comme ça. Elles auront été transportées, elles ont fait tant de kilomètres, tant de CO2, etc. Okay. Donc on est effectivement en train de se dire comment... Enfin, de toute façon, pour nous, la question de la traçabilité et de la transparence des produits, on voit bien, puisque nous, on a une base importante de clients en B2C, de clients millennials, donc on voit que ces gens, ils sont nés avec un smartphone dans la main, et pour eux, c'est complètement, ça fait partie des attendus du produit, en fait, de savoir comment il a été fait, par qui, la répartition de la valeur, etc.
Parce que ça rejoint un peu vraiment le sujet du podcast de est-ce que c'est une contrainte ou une opportunité business au final, l'impact positif et le fait d'avoir toutes ces mesures-là. Du coup, je peux te poser la question, même si ça transpire un peu de tout ce que tu as dit. Et ça m'amène aussi une autre question qui est, au final, dans votre activité, ça prend combien de place? Parce que souvent, il y a des gens qui veulent faire, moi j'en rencontre beaucoup du fait de mon métier, donc des gens qui soit sont dans un business positif, mais qui du coup sont complètement dans leur mission et oublient l'aspect économique d'une entreprise qui doit se pérenniser, ou soit des gens qui ont un business, on va dire, traditionnel, qui ont envie de le changer, mais c'est hyper dur de mettre de la ressource là-dessus. Parce que ça demande un changement terrible. Comment vous répartissez ça, en fait?
Mais je pense que c'est terrible pour les entreprises qui n'ont pas construit leur modèle ça, au départ. Je pense que c'est absolument terrible de devoir pivoter. C'est hyper compliqué. Enfin, on voit bien, la conduite du changement, c'est un truc extrêmement complexe à mettre en place dans les entreprises, encore plus quand elles sont grosses. Donc, moi, je le vois bien. Hein. Je ne tire pas du tout sur les gros corporates parce que, pour parler avec des Danone ou d'autres groupes dans l'agroalimentaire, ils ont les bonnes intentions. Pour la plupart, ils sont sincères. Oui. Mais c'est ultra compliqué à mettre en place parce que quand votre modèle économique, il est construit sur le fait qu'il y a un esclave dans la chaîne, par exemple, ou que vous allez mettre la pression sur vos fournisseurs pour pouvoir réinvestir tout votre argent dans du marketing, etc., etc., c'est vachement compliqué du coup d'avoir de transiter et de j'aime pas ce mot mais de transitionner, de changer vers une proposition de valeur.
Et en fait ça rejoint sans doute je pense ma question où tu réponds par ça, c'est au final eux peut-être qu'ils vont avoir des calculs de dire il faut qu'on mette 15% de nos efforts dans là où vous en fait
Nous on a construit le modèle comme ça en fait le cœur de notre notre business model, c'est combien d'argent doit aller au producteur.
Oui.
Et pas comment je vais le pressurer et comment je vais pouvoir récupérer de l'argent là-dessus. Ce qui donc est un mindset qui n'a rien à voir. Enfin, ce que je veux dire, c'est que du coup, on a pensé les choses comme ça dès le départ. Ce qui fait que nous, on est très tranquille en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut que gagner plus d'argent parce que plus on va optimiser, notamment sur de la logistique, mais sans avoir à pressurer les gens. C'est juste pour des effets de seuil, de volume, etc. Enfin, voilà. Mais il n'est pas question... de à un moment se dire là où on avait dit que sur le produit il y avait au moins 25% qui devait retourner au producteur finalement ce sera 3 non jamais à aucun moment parce qu'on n'a pas besoin de ça aussi parce que précisément dans la construction de notre modèle on a anticipé sur on a budgété en fait des coûts importants pour que chacun puisse vivre dignement de son travail.
Ce qui n'empêche pas l'entreprise d'être rentable, de pouvoir se payer, de pouvoir se développer et tout. Donc ça, c'est un exemple de business positif qui marche quoi.
Bien sûr, mais c'était assez lunaire d'ailleurs les conversations qu'on a eues avec les investisseurs quand on a fait notre première levée où nous ça nous paraissait évident. Ce que je veux dire, c'est que, à nouveau, ça ne nous serait pas venu à l'idée de créer une entreprise avec un modèle économique qui ne soit pas rentable, ce qui n'empêche pas l'ambition, ce qui n'empêche pas, évidemment, à certains moments de faire des investissements colossaux. Et donc, effectivement, pour un moment, on va passer en dessous de la ligne. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà.
Ça, c'est la vie de l'entreprise.
Mais ça, c'est la vie de l'entreprise, exactement. C'est pas... Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est tombé de l'armoire, quoi, de se dire, mais comment il faut... C'était dingue pour nous d'avoir à démontrer que, bien sûr, c'était rentable. Enfin, pour nous, c'était évident dès le départ que ce serait comme ça. Et parce qu'on avait prévu les choses, on les a construites comme ça. Donc ouais. Forcément, c'est pas, pour nous, ce n'est pas un coût supplémentaire, ce n'est pas une charge que ce soit de l'économie positive, etc. C'est que c'est construit comme ça et c'est tout à fait possible. Mais alors après, attention, évidemment, ça, c'est possible à quelles conditions ? Bah, notamment, en fait, qu'on n'a pas 70% capté par du marketing, de la publicité, oui. etc.
Mais d'ailleurs, ça rejoint une de mes dernières questions. D'ailleurs, qui est le marketing, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, parce que j'ai l'impression que c'est une communication qui se fait... En fait, vous faites beaucoup par l'action, ce qui est absolument génial, mais néanmoins, il y a quand même une personne qui est dédiée à la communication, au marketing. C'est aussi le sujet du podcast, c'est aussi un sujet qui m'anime. Comment tu fais pour faire connaître tout ça ? Est-ce que tu utilises les outils techniques, marketing traditionnel, ou est-ce que tu utilises d'autres choses ? Est-ce que y a le débat sur est-ce que je donne toute ma valeur à Facebook avec de la pub ou pas ? Est-ce que c'est des questions que vous vous posez ? Comment vous faites-vous concrètement pour aborder la question marketing qui
permet aussi le développement ? Attention, je vais te donner un chiffre qui est, depuis le début de Fleur d'ici, on a dépensé 500 euros en marketing digital.
Énorme.
Non, mais donc c'est vraiment rien. Enfin voilà. Et donc non, nous on fait des stratégies de partenariat. Ouais. Parce qu'on fait du plaidoyer, en fait. Donc, on a une proposition de valeur qui est tellement différente que ça nous permet d'exister tout simplement sur la base de la proposition de valeur. Donc, nous, on est un peu dans la mouvance Veja, etc. Ouais. C'est no marketing is marketing. Donc, nous, on n'a pas du tout, contrairement à... Les gens nous comparent souvent à d'autres acteurs... de la fleur qui sont bien connus en B2C, qui font des dépenses justement en marketing digital, en acquisition, qui sont... Enfin, bien sûr que ces gens doivent relever de l'argent tout le temps, oui. Parce que c'est un panier percé, en fait. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est une quête sans fin. En plus, le mot fleur, il faut savoir que le mot fleur en acquisition digitale, c'est un des mots les plus chers. Donc, c'est une quête qui est un peu sans fin, quoi. Enfin, oui. Donc, je pense que ce n'est pas la bonne stratégie, de toute façon. De se positionner là-dessus en n'ayant aucune proposition de valeur, bon courage à ceux qui font ça. Quoi.
Bah c'est ça, c'est qu'en fait, pour le marché traditionnel, c'est une nécessité aujourd'hui, alors que pour vous qui êtes complètement en train de disrupter le marché, limite, vous n'en avez pas besoin, les gens ne viennent pas vers vous pour ça.
Non, et c'est là où nous, en plus, on a, comment dire, je disais qu'on est une entreprise à mission et que nos deux missions, c'est la sauvegarde de l'horticulture et la deuxième, c'est le soutien au commerce de proximité. À nouveau, nous, on assure en plus cette mission-là pour nos adhérents, c'est pas des adhérents, mais pour les gens qui travaillent avec nous, notre réseau, le collectif de floristes avec lequel on travaille, c'est des gens qui sont des artisans. C'est pas leur savoir-faire de faire de l'acquisition digitale, du marketing, même faire une page Facebook. Souvent, ils ont pas le temps, ils sont tout seuls. Enfin voilà. Et nous, en revanche, c'est ça qui est intéressant pour eux aussi, c'est qu'on assure justement cette fonction de capter des marchés que ne pourraient pas avoir tout seul, parce que par exemple, on répond à des gros appels d'offres type AXA, gagner le marché d'AXA en France, aucun fleuriste artisan peut le faire. Donc nous, on capte du trafic supplémentaire pour eux, qu'on leur redistribue sans venir manger sur leur plate-bande de leur clientèle de passage, etc. etc. Donc voilà.
Par du plaidoyer, quoi. Ouais. Par notamment des actions de plaidoyer qui en fait ramènent le trafic qui est nécessaire, et par l'action et du partenariat beaucoup. C'est vrai que tu parlais de partenariat qui vous amène aussi à créer un écosystème, j'imagine, solidaire, parce que j'imagine que les partenaires sont quand même aussi dans des propositions de valeur similaires.
Typiquement, tu parlais de la campagne qu'on a faite pour la Saint-Valentin autour de la rose, pour sensibiliser au fait que la rose de la Saint-Valentin, c'est un peu comme les fraises de Noël, quoi. C'est pas une bonne idée. On l'a fait en partenariat avec le collectif On est prêt, qui est un collectif donc d'influenceurs qui sont très mobilisés sur les questions environnementales. C'est eux qui ont fait l'affaire du siècle. Enfin voilà. Donc oui, on essaye de travailler avec des gens qui sont alignés sur nos valeurs et qui ont une communauté avec lesquels on a une communauté d'intérêt sur le fait de faire prendre conscience aux gens que, à nouveau, je dis souvent, la carte bleue, c'est plus impactant que la carte électorale aujourd'hui, sans doute.
Oui, super. Petite dernière question, si tu as les défis de Fleur d'ici à venir pour cette année ? Est-ce que vous avez des défis particuliers ? Il y a l'internationalisation peut-être ? Ou alors, est-ce qu'il y a d'autres choses vraiment pour 2020, vu qu'on est en 2020 à l'heure de ce podcast ?
Il y a deux grosses questions pour nous en ce moment. Deux axes de développement qui sont liés à deux axes de développement sont assez différents. Alors nous, on se sent capable de faire tout, mais je pense que c'est illusoire de se dire qu'on peut faire tout au même moment. Oui. Donc il faut choisir, en tout cas il faut prioriser. C'est notamment là-dessus, on va s'appuyer sur le BCG, puisqu'on a gagné le prix de l'entrepreneur social, mais ce qui veut dire qu'on a gagné une mission d'accompagnement en stratégie qui va durer un an, donc c'est quand même une super aide. Donc en gros, nous, on a deux axes de développement importants. Déjà, il faut intensifier notre action sur le territoire national, mais ça demande pas d'investissement particulier. Mais il y a effectivement ce que j'ai raconté de comment fonctionne la filière des fleurs en France, c'est vrai partout dans le monde, donc ailleurs en Europe mais aussi aux États-Unis, et on commence à avoir beaucoup de demandes et de traction. Tu parlais de l'Allemagne, c'est un bon exemple. L'Italie aussi, l'Angleterre, les États-Unis, donc on est en train de regarder ces marchés. Le Japon, c'est un marché colossal, c'est 6 milliards d'euros, donc c'est 3 fois la taille du marché français. Je parle pas des États-Unis qui est évidemment le premier marché. La Russie, c'est énorme aussi. Il y a toutes ces perspectives de développement qui ne demandent pas forcément. Donc nous, ce qui est chouette, c'est que on peut avoir un développement assez frugal, dans le sens où il y a une grosse partie des choses qu'on peut faire depuis ici. Puisqu'il s'agit essentiellement de piloter un réseau à distance, donc avec une appli, c'est finalement pas si difficile à faire que ça. En plus, on a la chance dans l'équipe de parler à peu près toutes les langues européennes, donc il y a aussi ça qui joue.
Okay.
Et ensuite, il y a un autre chantier qui est d'une autre ampleur, qui est est-ce qu'on lance un autre POC ? Et donc, est-ce qu'on diversifie ? Okay. Est-ce qu'on lance d'autres verticales, d'autres filières? Ça pourrait être bière d'ici, par exemple, puisque des gens qui font du houblon un peu partout sur le territoire, il y en a, notamment en agriculture urbaine, c'est un des trucs qui marche le mieux. Des microbrasseries, il y en a à peu près 1000 à l'échelle du territoire français. Le circuit logistique, c'est le même que celui qu'on a déjà. Donc voilà, c'est un peu ça, et comment on modélise. Et après, il y a même une troisième option qui est, est-ce que cette tech qu'on a développée, est-ce qu'on peut la mettre à disposition,
ce que j'allais dire,
d'une façon ou d'une autre, au service des agriculteurs qui font d'autres produits, j'ai n'importe quoi, mais t'es producteur de tomates dans la région de Toulouse, grâce à notre appli, potentiellement, tu peux distribuer tes produits à de la restauration, à des restaurateurs, à des cantines, donc la restauration collective, à de la grande distri, à des épiceries locales, tu peux les distribuer en direct, tout ça en un seul lieu, avec une appli. Donc il y a toutes ces questions-là, avec toute la logistique mutualisée qui va derrière, que nous on organise aussi, etc. Donc il y a pas mal de chantiers potentiels.
Et passionnants.
Évidemment, moi, ce que je trouve passionnant, c'est de se dire comment on va disrupter le commerce mondial, tout simplement.
Rien que ça.
Moi, je dis, nous, notre but, c'est de disrupter Walmart, mais c'est un peu ça. Ouais,
mais c'est ça, c'est complètement.
Comment est-ce qu'on va pouvoir... Parce que tout le monde s'agite autour des circuits courts, mais les circuits courts, c'est 3% de l'alimentaire aujourd'hui. Donc, c'est rien. Y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Ouais. Et notamment, la raison pour laquelle ça se développe bien, mais pas si bien que ça, c'est parce qu'il faut penser
l'organisation,
le produit en entier, la supply en entier, en fait. Donc, avec la logistique, la distribution, la commercialisation, le marketing, etc.
Ouais. Et au final, c'est des petites entités. Bon, pendant le Tour de France, j'ai rencontré des personnes qui faisaient ça, mais c'est vrai que c'était, par exemple, on était dans la région de Grenoble. Et c'est des entités, des coopératives, des gens qui vont s'organiser, qui vont du coup s'organiser localement, ce qui est très chouette. Mais c'est vrai que déjà tout le monde n'en profite pas. Et puis ça demande d'aller sur des métiers qui n'ont pas forcément. C'est-à-dire que là où votre métier, en réalité, c'est ça. C'est vraiment l'apport logistique et tech qui va venir les soutenir dans leur métier à eux, qui est la production, la distribution, la transformation, etc. quoi.
C'est ça. On ne peut pas être au four ou au moulin.
Ouais.
Chacun son métier.
Ok, merci beaucoup. Il me reste les deux petites questions que je pose à chaque fois. La première, c'est est-ce que tu as un conseil pour les auditeurs qui sont sur des problématiques, alors soit qui ont un business positif et qui se demandent comment le développer, soit qui sont sur des problématiques autour de marketing, rentabilité, RSE, impact positif, comment mêler tout ça? Est-ce que toi, tu as un conseil de ton expérience avec Fleur d'ici à leur livrer?
J'ai un conseil qui est: c'est bien d'écouter les gens qui sont autour de vous, mais pas trop. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir un côté un peu, je ne sais pas comment dire, mais entêté.
Oui.
Si on avait écouté notre environnement, on ne fait rien comme ça se fait normalement. Oui. Rien, mais rien du tout. C'est-à-dire que À nouveau, je parlais de la roadmap tout à l'heure. Typiquement, une start-up se doit d'être comme ci, comme ça. Enfin, il y a plein de règles qu'on nous impose, qui sont écrites ou non écrites. Enfin, voilà, il y a plein d'attendus, mais il faut se libérer de ça, quoi. Enfin, ouais. Voilà. Donc, moi, mon conseil, c'est de dire n'ayez pas peur de penser par vous-même. Alors, sans être isolé, on existe dans un écosystème, on existe dans un environnement, on existe dans la société, etc. Il faut être à l'écoute de tout ça. Mais ce n'est pas parce que les choses ont été faites d'une certaine façon que c'est comme ça qu'on doit faire, quoi. Et donc, non, mais parce qu'on aime bien mettre en avant l'innovation, la disruption, etc. Ouais. Mais en fait, c'est très conceptuel.
On ne sait pas ce qu'on met derrière.
Exactement. Ouais. Et donc, on est souvent dans un environnement qui est quand même très conservateur, justement, sur comment ça se décline, et notamment en marketing.
Ouais.
Nous, il y a un certain nombre de choses qui seraient attendues de nous. On nous pousse souvent, genre, mais alors, c'est quoi votre taux de conversion et comment vous... Ouais. Enfin, ok, bien sûr que je sais répondre à ces questions, mais je pense pas que ce soit le Graal et l'alpha et l'oméga de comment on fait les choses.
Oui, parce
que
ton énergie, elle est pas là, quoi.
Non, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus intangibles et beaucoup moins faciles, en fait, à calculer et à codifier, mais qui sont sans doute l'essentiel. Donc moi, je dis souvent, je considère qu'on fonctionne comme un mouvement politique, en fait, comme un parti politique. Donc on est sur des notions d'engagement qui sont beaucoup plus difficiles à quantifier que j'ai mis 1€ dans Instagram et ça m'a rapporté 10. Super, ok, génial, très bien. Tout le monde peut faire ça, en fait. Enfin, c'est très mécanique. Mais je pense qu'on passe à côté des vrais enjeux de l'engagement, de comment on agrège une communauté, etc., etc. Donc voilà, je pense que...
De ce qu'attend en fait le consommateur.
Voilà.
Parce que c'est beaucoup par l'exemple, tu parlais des millennials, et c'est vrai que c'est beaucoup par l'exemple, c'est-à-dire qu'en fait ils vont regarder ce que vous faites.
C'est ça.
C'est limite ce que vous racontez, ça va
c'est
avec.
Ce que je dis souvent, c'est qu'une grande marque de café qui se paye les services d'un super acteur pour dire « il est bon mon café, what else ?» ils pourront toujours payer très cher, mais d'ici... même pas 10 ans, d'ici 5 ans en fait, le consommateur, si à la fin de la chaîne de ce café, c'est 1 centime qui va au producteur, je suis pas sûre que les gens ils vont continuer à l'acheter, même si on leur dit what else. Voilà.
Ouais,
donc je pense que pour avoir travaillé en plus chez Havas, donc connaître bien la culture de la publicité, etc., je suis pas sûre que ce soit... Enfin, voilà. Je pense qu'il
va... l'avenir de la pub.
Bah, en tout cas, pas comme ça.
Dernière question du coup, est-ce que tu as un business positif à me recommander qui serait intéressant de podcaster pour avoir ta cité Simplon tout à l'heure
Plein, j'ai...
Envoie la liste.
Loom, Loom, Simplon, Phoenix, j'en ai plein, c'est EVK.
Ok, je connais pas.
EVK, c'est une super nana qui s'appelle Audrey-Laure Bergenthal. Qui fait des mannequins connectés qui permettent de réduire les invendus dans le milieu de la mode. Donc c'est un truc, c'est considérable. Ils sont basés en plus à Valence, donc ils font de l'emploi local. Enfin bref, super. De la
génial.
Tech évidemment derrière.
J'ai regardé, je mettrai en note.
Voilà. Donc, mais j'en ai plein, je t'enverrai la liste avec plaisir.
Carrément. Bah écoute, un grand merci pour tous ces partages, c'est hyper précieux. Et puis bah une belle continuation à Fleurs d'ici, ça donne envie d'aller acheter les fleurs. Plutôt que d'aller au fleuriste du coin ou de lui demander s'il connaît. Ça peut aussi être ça,
c'est
le
ça.
Rôle de consommatrice.
D'ailleurs, c'est plutôt ça.
D'aller
c'est
voir mon fleuriste.
D'aller voir les fleuristes et de leur dire « Mais vous savez d'où elles viennent, vos fleurs ?» etc. Et c'est comme ça qu'on va aussi faire changer la société et la façon dont ces gens se comportent.
Et ben, je sais ce que je vais faire ce soir. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Voilà pour ma causerie avec Hortense Arant. J'espère que ce contenu vous a plu et vous a apporté des clés pour votre business positif, votre politique RSE ou tout simplement des clés de réflexion. Si vous avez aimé ce podcast, ça m'aiderait beaucoup que vous mettiez 5 étoiles sur Apple Podcasts ou toute plateforme d'écoute que vous utilisez et que vous en parliez à au moins une personne autour de vous qui a ou qui bosse pour un business positif ou bien qui a ou qui bosse pour une entreprise qui se pose des questions sur son impact. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, Mélodie Schmoss, Mélodie avec un Y, si vous avez la moindre question ou remarque. Je suis toujours à l'écoute d'Axe d'amélioration. Je vous remercie encore pour votre écoute et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Si vous êtes arrivé au bout de cette causerie, c'est sans doute qu'elle vous a plu. Pour être averti des prochains épisodes, inscrivez-vous à la newsletter Business Positif et abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis j'imagine qu'on vous le demande souvent, mais c'est tellement précieux d'avoir votre soutien. Alors s'il vous plaît, prenez une petite minute pour partager cet épisode autour de vous et le noter ou lui laisser un commentaire sur Apple Podcasts. À très vite !